Bonjour à tous et à toutes. Alors, il paraît qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial, qui est une fête. Est-ce que vous savez laquelle ? La Saint-Valentin. Et alors, la Saint-Valentin, c'est quoi ? La fête des amoureux. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, hein. Donc, aujourd'hui, il paraît que c'est la fête des amoureux. C'est tous les jours, dit Lou. Ça, c'est beau, c'est vrai ? Et aujourd'hui, j'aimerais justement vous parler d'une histoire d'amour, et une histoire d'amour qui remonte avant la création du monde. Alors cette histoire d'amour, c'est celle-là. Que font tous les amoureux, en général, quand ils voient un arbre et qu'ils ont un couteau dans la poche? C'était plus vrai avant, je pense. On fait un cœur, une flèche, donc là vous voyez un cœur, une flèche, et à l'intérieur, Dieu plus Église. Dieu plus l'Église. Une histoire d'amour qui remonte avant la création du monde. Vous me croyez ? C'est la Bible qui le dit, hein, c'est pas moi. Que l'histoire d'amour entre Dieu et son Église remonte de toute éternité. Alors mon but ce matin, en vous apportant cette méditation, c'est que Dieu renouvelle notre vision de l'Église, et en particulier de l'Église locale, qui est un petit échantillon visible de cette Église dite universelle que Dieu construit. Pourquoi ? Parce que peut-être que, comme moi, parfois vous êtes découragés devant l'imperfection et le péché qui empoisonne nos communautés, découragés devant le manque d'attention, le manque d'amour, la facilité à blesser, la susceptibilité qui entraîne de l'amertume. Découragé devant les conflits si faciles à s'enflammer et si difficiles à éteindre. Peut-être que, comme moi, vous vous dites parfois que décidément le corps de Christ est bien mal en point, que le temple de Dieu est un affreux chantier et que l'Église remplit bien mal sa mission de témoin de l'amour inconditionnel de Dieu. Peut-être aussi que simplement, vous ne voyez plus très bien ce que vous faites dans l'Église ou quelle est votre place. Alors ce matin, je vous invite à ouvrir nos Bibles et nos cœurs pour permettre au Seigneur de renouveler notre vision et notre enthousiasme pour l'œuvre la plus grandiose, la plus belle et la plus ambitieuse de tous les temps, et que nous puissions nous réjouir du privilège d'y être associés. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Éphésiens. Alors, ça tombe bien parce que beaucoup l'appellent l'épître de l'Église. C'est une épître que Paul a écrite tardivement dans son ministère, qui est aussi appelée l'épître de la maturité. Éphésiens au chapitre 3, épître de la maturité parce qu'on voit vraiment la pensée de Paul et la compréhension qu'il a de l'œuvre de Dieu vraiment aboutie. Et lui-même, à un moment, dit « Voyez à quel point je comprends le mystère de Dieu. » Donc au chapitre 3, je vous invite à lire à partir du verset 8, Éphésiens 3, verset 8. Au cours de cette méditation, je ferai quelques autres citations, mais gardez vos livres, vos Bibles ouvertes en Éphésiens, parce qu'on va essentiellement se pencher dans ce livre-là. Verset 8. Je vous lis dans la version du Semeur, jusqu'au verset 11. « Oui, c'est à moi, » donc c'est Paul qui parle, hein, « c'est à moi le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. » Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Je trouve ce texte fascinant. C'est comme si Dieu nous invitait à monter un peu sur la montagne et à voir les choses d'un peu plus haut. Parce que c'est vrai que parfois, à force de rester au plus près des situations, eh bien, on ne finit par voir que tout ce qui ne va pas. Et parfois, Dieu nous dit, viens, monte. Regarde comment moi, je vois les choses. Regarde comment moi, je vois les choses. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un peu du voile de l'antichambre de Dieu qui est révélé. Dieu avait un plan secret qu'il a gardé caché depuis l'éternité, donc avant même la création du monde, et qu'il a révélé à partir du moment où ça s'est réalisé en Jésus-Christ. Et ce plan secret est révélé comment ? Au moyen de l'Église. L'Église est le témoin, non seulement aux yeux des hommes, mais aux yeux du monde invisible, des desseins de Dieu. Quelle perspective ! On est quand même loin de l'affreux chantier, là, on est dans une autre dimension. Aux yeux du monde invisible, des autorités dans les lieux célestes. Le projet de Dieu, jusque-là secret, a été mis à exécution par Jésus-Christ et manifesté à travers l'Église lorsqu'il a été communiqué aux apôtres. Et dans un premier temps, j'aimerais qu'on se penche justement sur ce plan secret de Dieu. En voyant deux choses, le contenu de ce plan et le privilège que nous avons d'avoir accès à ce plan. Alors d'autres traductions vont dire le projet, le dessein de Dieu, et la traduction seconde dit le mystère, le secret, le plan secret, le projet secret de Dieu. Le contenu de ce plan, on peut remonter quelques versets plus haut et lire au verset 6, Éphésiens 3, 6, qui nous dit « Et ce secret, c'est quoi ? C'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et ont part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle. » Deux choses dans ce plan, dans ce secret. Le salut pour tous et la constitution d'un nouveau peuple comprenant non seulement des juifs, mais tous les non-juifs, donc c'est-à-dire en fait tous les autres. Et nous, on est habitués à cette idée. Mais pour les apôtres, après la résurrection de Jésus, c'est une découverte stupéfiante. Les promesses de salut et de grâce qui étaient faites à Israël étaient valables pour toute l'humanité. Le Messie annoncé depuis des siècles par les prophètes juifs n'était pas seulement le Messie des Juifs, mais le Sauveur de toute l'humanité. On remonte juste au chapitre d'avant, Éphésiens 2, versets 15 à 16, il est dit « Dieu voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des juifs et des non-juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. » Là, il est en train de dire, tous étaient ennemis de Dieu. Que vous soyez juifs ou que vous soyez non-juifs, nous étions tous des ennemis de Dieu et tous avaient besoin de réconciliation, les uns et les autres. Les juifs n'étaient pas plus justes que les non-juifs. Et en Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, cette réconciliation était offerte à tous. C'était le dessein de Dieu, depuis le début, même quand il a appelé le peuple juif pour être le porteur de sa révélation. Il avait déjà l'idée d'un peuple constitué d'hommes et de femmes de toute nation. Salut pour tous, mais aussi les unir en un seul corps, c'est-à-dire que Dieu avait pour projet de former un peuple, un corps uni, constitué de tous les rachetés de toutes les nations. C'est l'Église. Et la révélation de ce plan était bien difficile au début à admettre par les apôtres. Les Juifs se pensaient le peuple élu, pensaient bénéficier d'un traitement de faveur de la part de Dieu par rapport aux autres peuples. Et ils doivent l'admettre, Dieu ne fait pas de favoritisme entre les hommes. C'est la constatation de Pierre, en acte 10, que vous pourrez relire, quand après maintes et maintes interventions de Dieu, il a dû admettre qu'effectivement, Dieu s'était révélé dans la maison d'un officier romain. Dieu ne fait pas de favoritisme. Galates 3, 28 nous dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Tout ce qui séparait, qui mettait des séparations, que ce soit d'origine, que ce soit des critères de situation sociale ou que ce soit des critères de sexe, tout cela, Dieu l'a aboli. Nous sommes un en Jésus-Christ. Nous pouvons tous, de la même manière, sans obstacle, nous approcher de Dieu par Jésus-Christ. Donc ça, c'est le contenu du plan. Vous nous direz, pour nous, rien de très nouveau. Pour les Juifs, c'était une révélation extraordinaire. Parce que effectivement, ils n'avaient pas compris ça. Parce que Dieu avait maintenu, caché son dessein. Le privilège d'avoir accès à ce plan. Et pour ça, je voudrais vous lire un texte qui est aussi étonnant que ce texte d'Éphésiens, dans 1 Pierre 1, 11 à 12, qui dit « Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit-Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. » Une autre traduction dire « Les anges eux-mêmes désirent y plonger leur regard. » Il y a encore cette vision d'un monde invisible qui observe avec émerveillement ce qui se passe dans l'Église. En réalité, Dieu avait déjà commencé à révéler son plan par petites touches dans l'Ancien Testament, depuis la chute, depuis ce jour où il a déjà promis qu'un sauveur arriverait. Mais de façon à ce que tout ne soit compréhensible qu'une fois son plan mis à exécution. Et même Jésus, il n'a pas cherché à tout expliquer à ses disciples. On voit souvent dans les évangiles, les disciples ne comprirent pas sur le moment ce que Jésus disait ou ce que Jésus faisait. Mais plus tard, après sa résurrection, le Saint-Esprit leur a permis de reconstituer, de comprendre aussi que ce qui avait été écrit de lui dans l'Ancien Testament. Et nous, avons-nous le désir de plonger nos regards dans cette révélation que Dieu nous donne? Nous qui avons le privilège d'avoir accès à la pleine lumière sur le plan de Dieu. Nous qui pouvons nous émerveiller avec justement le monde invisible de cette sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est la sagesse infiniment variée de Dieu? Comment une sagesse peut être variée? Alors, il y a une autre traduction, là, que j'ai lue dans le Semeur, qui est les aspects variés de la sagesse de Dieu. En tout cas, ce n'est pas une sagesse qui varie. On est bien d'accord. D'ailleurs, ce texte montre bien que Dieu n'a pas varié d'un pouce dans ses plans et que depuis le début, il a tout mis en place pour faire aboutir son dessein. Mais il y a une autre traduction que j'ai trouvée dans une Bible qui est « La sagesse infinie en ressources déployées par Dieu ». Vous savez, ça me fait un peu penser au débarquement en 1944. Ce débarquement qui était préparé minutieusement, qui a été préparé longtemps à l'avance, qui a été préparé aussi sur le terrain avec les différents groupes de résistants. Depuis l'Angleterre, on leur donnait des missions à remplir pour que lorsque les soldats allaient débarquer, ça puisse vraiment être une opération, une victoire et une réussite, et qui avait été tenu caché, en particulier l'heure, le lieu, jusqu'à la dernière minute. Mais aussi, ce qui est étonnant dans cette histoire du débarquement, quand on voit dans les reportages, c'est les ressources incroyables et les trésors de créativité qui ont été mis en œuvre pour ce débarquement. Quand vous voyez ce que c'était en termes de matériel, d'hommes, et il y a des conceptions quoi, alors, qui ont été, des tanks qui ont été faits pour pouvoir flotter, enfin, il y a eu tout un tas de choses qui ont été même créées spécialement pour ce débarquement. Alors, ça reste une œuvre humaine, ça a eu ses faillites, ses erreurs, hein, on l'a tous pu le voir dans les reportages. Mais Dieu, lui, il a patiemment mis en œuvre une opération de sauvetage de l'humanité avec pédagogie, avec sagesse, qui ne cesse d'émerveiller par sa perfection et sa cohérence quand on prend la peine de s'y pencher à la lumière du Nouveau Testament et de voir comment Dieu, depuis le début de l'Ancien Testament, a patiemment mis en place son dessein. Alors, le texte nous dit que ça a été réalisé, alors une autre traduction dans Genève dit mis à exécution par Jésus-Christ. L'œuvre de Christ a eu pour finalité de permettre la mise en place du projet de Dieu, rassembler ce peuple de rachetés de toutes les nations. Avant même la création du monde, Dieu dans son amour avait déjà en vue ce plan, mais la réussite dépendait de l'œuvre de Christ sur la croix. Dieu l'a donc maintenu secret jusqu'à sa réalisation possible. Et c'est notre deuxième point, on a vu ce plan, c'est la mise à exécution par Jésus-Christ. Et que la finalité, c'était l'Église. Jésus s'est offert pour constituer l'Église. Tite 2,14 dit « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. » Acte 20-28 nous parle de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Le but du sacrifice de Dieu, c'est de permettre à Dieu ouvertement de rassembler son peuple, ce peuple qu'il prépare de toute éternité. De le rassembler ouvertement, pourquoi ? Parce que ce peuple, il n'a pas commencé après la résurrection de Jésus. On voit dans le livre des Hébreux, au chapitre 10 et 11, l'auteur nous montre à quel point, dans l'Ancien Testament, il y a des hommes et des femmes de foi qui ont ouvert le chemin. Et Abraham lui-même avait compris qu'au travers des promesses terrestres d'un pays, d'un peuple, d'une descendance, il y avait une autre portée. Et il attendait cette réalisation céleste. Donc l'Église, en réalité, il y avait une Église clandestine, est-ce qu'on peut dire ça ? Une Église clandestine et une Église cachée, déjà dans l'Ancien Testament, mais qui est révélée et manifestée après la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui fait que je ne pense pas qu'on puisse dire que l'Église est le nouvel Israël. L'Église, c'est le peuple que Dieu a voulu, depuis la fondation du monde, se constituer. Ce n'est pas un nouveau peuple. Christ a tout accompli pour que Dieu puisse, sans renier sa justice et sa sainteté, accueillir tous les humains repentants. L'Église, c'est le rassemblement de cette nouvelle humanité, constituée de tous les rachetés. Et si le salut en Jésus-Christ est une démarche personnelle, individuelle, la vie chrétienne est tout sauf individualiste. Parce que être sauvé, ça signifie être né au sein d'un peuple. Et là, on arrive au cœur de ce que j'avais envie de dire ce matin. Nous sommes sauvés pour être ajoutés à l'Église. C'est Acte 2,47 qui nous dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Je viens de vous lire dans Tite que Jésus-Christ s'est livré pour constituer un peuple, pour se faire un peuple qui lui appartienne. C'est le but. Si je suis née en France, je suis automatiquement française. Alors je peux toujours par la suite essayer de changer de nationalité. Mais à partir du moment où je suis née en France, peu importe que je sois d'accord ou pas, je suis française. J'appartiens. J'ai le droit d'être sur ce pays et j'appartiens à ce pays. Si je suis née de nouveau, je suis automatiquement membre du peuple de Dieu, du corps de Christ. Ça, c'est un fait. Que je m'y sois engagée ou pas, je le suis. Et ma vie chrétienne n'a de sens qu'en communion avec les autres membres du corps. On ne peut pas imaginer une main qui se promène indépendamment du corps. Ou un pied. Tous les membres du corps n'ont de sens que si on sont unis les uns aux autres. Un pied qui se promènerait tout seul ou qui serait tout seul dans un coin, il est mort. Une autre image qui est l'édifice de Dieu, que Dieu construit, qui est utilisée pour parler de l'Église. Et Pierre nous dit, ça tombe bien que ce soit Pierre, que nous sommes les pierres de l'édifice que Dieu construit. Il y a cette image, on est les membres du corps, mais on est aussi les pierres de l'édifice. Et une pierre qui se trouverait isolée en dehors du chantier ne peut être considérée comme faisant partie de la construction. Imaginez, vous construisez une maison, et puis il y a un parpaing qui reste là dans le coin. Où finira ce parpaing lorsque la construction sera achevée et s'il n'a pas été intégré dans l'édifice? À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, où nous sommes sauvés, nous avons été ajoutés à l'Église. Nous sommes membres du peuple de Dieu. C'est notre place. Deuxième idée dans cette mise en œuvre de Jésus, c'est que Jésus a aussi ouvert un chantier ambitieux. Oui, l'Église est un chantier. Elle est un chantier, c'est vrai. Éphésiens 5, donc quelques chapitres après, il y a une image magnifique. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Il a voulu ainsi se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Quelle description de l'Église! Ça colle pas tellement avec la vision qu'on en a en général. Mais c'est normal! Nous sommes en chantier. Mais Dieu voit déjà ce qu'il veut faire avec l'Église. Qu'est-ce qu'on voit là? Quel est le but de Dieu? D'avoir une Église belle comme une épouse parée pour ses noces. Vous savez, c'est une image qui est employée très souvent par Dieu dans l'Ancien Testament pour décrire la force de son amour pour son peuple, sa valeur à ses yeux, l'exclusivité de la relation qu'il a envie d'avoir avec elle. Et rien de moins qu'une Église rayonnante de beauté, qu'une gloire parfaite et resplendissante. Mais pour le moment, l'Église, c'est un chantier en construction, pleine de pécheurs qui n'ont pas mérité d'être là, et que Dieu façonne comme des pierres de taille qui, pour le moment, ressembleraient à des rochers grossiers. Vous savez, quand on a fait construire notre maison, je suis allée visiter le chantier quand il y avait juste les parpaings qui avaient été montés. Et puis il y avait la dalle. Et je suis rentrée dans cet édifice, cette construction, donc avec juste des parpaings. Il n'y avait pas encore les vitres, mais il y avait les ouvertures. Et la première impression que ça m'a donnée, c'est sombre et c'est petit. Ça m'a semblé tout sombre, tout petit, tout... Et je me suis dit, oh là là, c'était pas ce que j'avais imaginé en faisant des plans. Puis je me suis souvenue que quand j'avais visité le chantier de mon frère quelques années auparavant, je m'étais fait la même réflexion. J'avais vu la dalle et je m'étais dit, mais une maison, ça tient là-dessus? Ça semble tout petit. Et puis en fait, une fois que la maison était construite, on n'avait plus du tout la même impression. Il y avait une impression d'espace, de lumière. Et quand je vois maintenant notre salon, salle à manger, qui est lumineux, avec ses baies vitrées, sa peinture claire, je repense à cette impression que j'ai eue. Et parfois, peut-être l'Église, c'est ça. C'est en construction. Ça peut paraître encore petit, sombre, sale. Mais quand l'édifice sera achevé, ça sera clair, lumineux, rayonnant de gloire. Parce que ce que Jésus promet, c'est ce à quoi Jésus travaille. Alors on peut aller sur le chantier de la construction et puis se lamenter sur ce qu'on voit, ou on peut, et c'est un peu ce qu'on a fait parce qu'on sait ce qu'on vise, se dire, ah non, là voilà, là ça va être comme ça, là ça va être comme ça. Et on peut déjà projeter ce que ça va devenir. Et ça change complètement le ressenti déjà et la manière d'aborder les choses. Et c'est mon troisième chapitre. Nous devons être pleinement participants de ce plan. En tant que chrétien, mon avenir est étroitement lié à celui de l'Église. L'amour de Dieu pour moi est lié à son amour pour l'Église. Il m'a aimé et sauvé parce qu'il m'a voulu dans son peuple, dans l'Église, celle qui s'est acquise à grand prix quand même. et pour participer, deux axes. Premièrement, regardez l'Église avec l'amour et la tendresse que Dieu lui porte. Il est vrai que pour le moment, l'Église n'est ni très belle ni très parfaite. Bien au contraire, elle ressemble plutôt à un affreux chantier parfois. Et elle n'est ni très belle ni très parfaite pour la première raison qui est que je ne suis pas parfaite. Et donc, à partir du moment où je viens dans cette Église, j'y apporte mon imperfection. Mais si nous sommes capables de regarder nos propres constructions en ayant en vue ce que ça va devenir, alors que Dieu nous rende capables de regarder l'Église en gardant cette perspective que lui a pour l'Église et la fierté d'en avoir payé le prix fort, qu'il nous accorde ses yeux pour regarder l'Église. Deuxième axe, l'Église, c'est un chantier auquel nous sommes invités à participer. Nous ne sommes pas des pierres passives, c'est là où l'image s'arrête, mais Pierre, l'apôtre Pierre nous dit, nous sommes des pierres vivantes qui elles-mêmes s'assemblent aussi et participent à l'édification de cet édifice. Jésus bâtit son Église, mais il nous invite à bâtir avec lui et permettre à Dieu de me placer dans son édifice, à l'endroit qu'il a choisi, pour lequel il me taille, c'est simplement vivre ce pourquoi il m'a sauvé. De deux manières, en collaborant à l'édification et à la croissance de l'Église, édifiez-vous comme des pierres vivantes pour former un temple, dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre 2. Et la deuxième manière, collaborer à faire amener de nouvelles pierres dans la construction. Allez, faites de toutes les nations des disciples, soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, a dit Jésus. L'Église, ce n'est pas un aquarium qu'on construit. C'est un temple ouvert, un témoin de la grâce de Dieu, ouvert tout grand pour que Dieu puisse faire entrer un maximum de pierres dans son édifice. Alors, je nous invite ce matin à marcher ensemble dans la soumission à Christ. Sachons regarder le but. Et alors, nous ferons nôtre cette belle description de l'Église qu'on trouve dans Éphésiens encore, au chapitre 4 et au verset 16. Éphésiens 4, 16. C'est de lui, donc Christ, c'est de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. De toute éternité, Dieu avait désiré nous sauver pour nous faire participer à cette œuvre grandiose et belle qu'est la construction de son Église. Alors, ne nous arrêtons pas à toute cette imperfection, mais au contraire, travaillons, œuvrons ensemble d'un même cœur pour aller dans ce sens-là, dans le but que Dieu nous fixe. Une Église qui soit un corps bien coordonné, formant un solide assemblage, qui grandisse, et je trouve magnifique, selon la force qui convient à chacune de ses parties. On n'est pas tous égaux. On n'est pas tous amenés à avancer à la même vitesse. On n'est pas tous amenés à avoir la même taille, le même poids, mais chacun trouve de quoi grandir avec ce qu'il est, dans la mesure de ce que Dieu lui donne, et s'édifie lui-même dans l'amour. Je terminerai par cette prière. Seigneur, apprends-nous à aimer notre Église comme tu l'aimes et à désirer contribuer à sa vie et à sa croissance, dans la mesure des dons que tu nous as donnés. Nettoie nos cœurs de toute amertume et remplis-nous de ta grâce et ton amour les uns pour les autres, collaborant d'un même cœur à ton œuvre. Amen.